Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Fisrel. Nous avons le plaisir de retrouver Claude Rémy, président d'Arnica Montana. Bonjour Claude Rémy.
Bonjour.
On va parler donc du muguet.
Donc aujourd'hui, nous allons parler de deux plantes qui fleurissent au mois de mai, voire mai-juin. Le muguet de mai, et le sabot de Vénus. Le mois de mai, qui marque le retour du printemps, est associé à une des plantes les plus connues, symbole du retour du bonheur dans le langage des fleurs, le muguet de mai. D'où viendrait cette tradition d'offrir du muguet le 1er mai? En 1561, le chevalier Louis de Girard est de retour d'une mission secrète en Italie que lui avait confiée Catherine de Médicis. Il cueille dans son jardin de Saint-Paul-les-Trois-Châteaux dans la Drôme un bouquet de muguet qu'il offre comme porte-bonheur au roi Charles IX, alors âgé de 10 ans. Le 1er mai de l'année suivante, le roi offrit comme porte-bonheur un brin de muguet à chacune des dames présentes, créant une tradition qui se perpétue de nos jours. Mais en réalité, cette tradition n'est devenue populaire qu'à partir des années 1900. Le muguet n'est associé à la fête du travail qu'en 1941 par le maréchal Pétain qui l'instaure officiellement pour remplacer les glandiers. Le muguet est une plante de la famille des lys, appelée d'ailleurs autrefois le lys des vallées. Son nom scientifique, Convallaria maialis, vient du latin cap convallis, qui signifie vallée, et maius, le mois de mai. C'est donc une plante qui pousse en mai dans les vallées. Le nom français muguet daterait de 1900. On l'appelait alors musguette, dérivée de musc, peut-être une altération de muscade en raison de l'odeur de la fleur. Tout le monde connaît le muguet, cette petite plante d'environ 20 à 30 cm de haut, aux feuilles d'un vert brillant, disposées par deux ou trois, aux nervures parallèles et aux fleurs très odorantes en forme de clochette munies de 6 dents. Le muguet fleurit d'avril à juin. Un printemps froid retarde la floraison, au contraire, un printemps chaud l'avance. Le fruit qui arrive à maturité en octobre est une baie rouge orangée de la taille d'une groseille, mais très toxique. Les graines semées en automne mettent 2 ans à germer et la floraison demande au moins 3 ans. En effet, le froid de 2 hivers successifs est nécessaire pour que la graine puisse germer. Le muguet est une plante vivace dont la croissance est assurée par une tige souterraine qui est appelée un rhizome. Le rhizome s'allonge sous le sol et donne à chaque printemps une nouvelle tige aérienne alors que la tige de l'année précédente disparaît. Un pied de muguet peut donc vivre de nombreuses années. Le muguet est très largement réparti en Europe, jusqu'au nord de l'Asie. En France, il est présent sur pratiquement tout le territoire, mis à part la région méditerranéenne et l'extrémité de la Bretagne. Dans les Hautes-Alpes, le muguet est plus abondant dans le Gapensé, le Champsaur, le Dévoluy, le Val-Gaudemar. Il est plus rare dans le Queyras, le Laragnier, le Briançonnet, où il fleurit plutôt vers le 1er juin dans la nature. Le muguet pousse dans les forêts et bois un peu frais, sur sol acide ou basique, entre 600 et 2200 mètres d'altitude. Le muguet serait un bon bio-indicateur d'ancienneté et de maturité de la forêt. Le muguet présente des propriétés médicinales intéressantes, en particulier pour le cœur. D'après Jean-Marie Pell, ces propriétés médicinales auraient été découvertes par des guérisseurs de la vieille tradition russe. Il n'a été utilisé en médecine qu'à partir de la fin du 19e siècle. Le muguet contient des substances tonicardiaques et diurétiques. Il ralentit, régularise et renforce les battements cardiaques et a une action proche de la digitaline ou de l'oabaïne, ce qui le fait utiliser dans certains médicaments. Mais attention, l'usage du muguet comme plante médicinale familiale est à proscrire totalement, car le muguet est une plante très toxique, et toute la plante est toxique. Environ 50 personnes sont intoxiquées chaque année en France par le muguet et sont traitées en centre antipoison. La plupart des intoxications concernent des enfants qui ont consommé des baies ou bu l'eau des vases contenant du muguet. L'ingestion de quelques baies peut être mortelle pour un enfant. Et je le rappelle, comme on vient de le dire, toute la plante est toxique. Et le simple fait de mâchonner un brin de muguet peut provoquer une intoxication. Les principaux symptômes de l'intoxication sont, dans un premier temps, des nausées, de violentes douleurs abdominales, des vomissements, diarrhées, Puis surviennent, dans un deuxième temps, des troubles du rythme cardiaque, des vertiges, des convulsions et un coma. L'intoxication peut être mortelle en provoquant un arrêt cardiaque. Toutes les variétés de muguet sauvages ou cultivées ont les mêmes propriétés toxiques. Le muguet est également utilisé en parfumerie, mais c'est actuellement surtout un produit de synthèse, le terpinol, qui est employé à la place de la plante porte-bonheur. La principale utilisation du muguet est sa vente au 1er mai. La plante fait l'objet de cultures à cet effet. Toute personne a le droit de vendre du muguet le 1er mai, mais à condition, pour les non-professionnels, de ne disposer ni de table, ni de chaise. Attention, la cueillette du muguet sauvage est réglementée dans tout le département des Hautes-Alpes, en tout temps, par un arrêté préfectoral du 14 décembre 1992 qui limite la cueillette du muguet à ce que la main d'une personne adulte peut contenir. Il est interdit, tout le département des Hautes-Alpes, de détruire, d'arracher, de prélever les parties souterraines. Il est interdit de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter sciemment tout ou partie de muguet poussant dans les milieux naturels du département. Si vous cueillez quelques brins de muguet, utilisez des ciseaux pour ne pas arracher le rhizome. Laissez des feuilles afin qu'elles puissent fournir par photosynthèse des réserves pour permettre au rhizome de reformer des tiges fleuries l'année suivante. Alors nous allons maintenant parler d'une autre plante, d'une plante magnifique qui est l'emblème de la flore rare et protégée, le sabot de Vénus, parfois appelé sabot de la Vierge. Le sabot de Vénus est une orchidée poussant dans notre département et dont la beauté n'a rien à envier aux orchidées tropicales. Lorsque l'on voit le sabot de Vénus une fois, on ne peut pas l'oublier. Il s'agit d'une plante de 20 à 50 cm de haut, dont la partie inférieure de la fleur, que les botanistes appellent labelle, a la forme d'un sabot jaune vif d'environ 4 cm de long, entouré de pétales et sépales de couleur pourpre. Le nom de la plante vient bien entendu de la forme de sa fleur. Les Anglais l'appellent pantoufle de dame ou pantoufle de Notre-Dame. Les Américains l'appellent la fleur mocassin et les Allemands la chaussure de dame. Le nom scientifique, Cypripedium, vient de Cypris, qui est un des noms de la déesse Vénus, et de Pedilum, qui désigne une petite chaussure. Le sabot de Vénus pousse le plus souvent en touffe. La plante possède un rhizome, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit pour le muguet, une tige souterraine dont la croissance d'environ 1 cm par an est assurée par deux bourgeons terminaux. Le sabot de Vénus pousse entre 950 et 2000 mètres d'altitude dans des forêts claires de feuillus ou de résineux ou des clairières ou des marches forestières. Il a besoin de lumière et la fermeture du milieu par densification de la forêt peut lui être fatale. L'abattage de quelques arbres poussant à proximité de notre orchidée peut lui être salutaire. Le sabot de Vénus pousse dans des régions à microclimat froid, sur des sols calcaires, humides, mais non gorgés d'eau. Bien que rare, le sabot de Vénus est présent dans la plus grande partie de l'Europe, en Sibérie et en Amérique du Nord. À l'échelle européenne, les populations de sabot de Vénus subissent une régression. L'espèce a disparu de la Belgique, du Luxembourg, des Vosges, des Pyrénées-Occidentales et du Puy-de-Dôme. Elle a pratiquement disparu de Lorraine et d'Alsace. Il ne subsiste dans ces régions que quelques stations. C'est dans les Alpes que le sabot de Vénus est le plus représenté. Dans les Hautes-Alpes, le Cypripedium est présent dans presque tous les secteurs, mis à part le Queyras. Il est assez fréquent dans l'Embrunais et le Briançonnais, notamment dans la vallée de la Clarée. Comme chez beaucoup d'orchidées, la stratégie pour assurer la fécondation est surprenante. La fleur émet des substances chimiques imitant celles du partenaire, qui est une petite abeille. L'insecte, attiré par un signal coloré, se pose sur une partie précise de la fleur, qui, au lieu d'une piste d'atterrissage, se révèle être un véritable toboggan, précipitant le malheureux animal dans l'ouverture du sabot. Des poils dirigés vers le bas empêchent l'abeille de ressortir par le même orifice. Avant de pouvoir s'échapper par une ouverture latérale, notre prisonnière devra suivre un véritable parcours du combattant, l'obligeant à entrer en contact avec une étamine où elle s'endurera d'un pollen visqueux. Ne pouvant résister à l'attrait d'une autre fleur, l'abeille sera de nouveau dupée et déposera sur le stigmate le pollen de la fleur précédente, et ainsi pourra avoir lieu la fécondation. Pour survivre, le sabot de Vénus a besoin d'autres partenaires. Ainsi, les graines de ce sabot de Vénus ne peuvent germer que si elles sont infectées par un champignon microscopique particulier. Lors du développement de la plante, ses racines s'associent avec les filaments d'un autre champignon, permettant à l'orchidée de prélever l'eau et les sels minéraux dans le sol. Si vous trouvez un sabot de Vénus, inutile donc de prélever des graines ou une plante pour votre jardin. Cette tentative sera vouée à un échec pratiquement certain. Rappelons également que ce cypripédium, notre sabot de Vénus, est totalement protégé par la loi sur tout le territoire national par arrêté ministériel et qu'il est donc interdit de prélever tout ou partie de la plante, de la transporter, de la vendre ou l'acheter. Chaque fruit de sabot de Vénus, qui se présente sous forme d'une petite capsule, renferme environ 13 000 graines. Mais leur taux de survie est extrêmement bas. Une graine n'a environ qu'une chance sur 1 milliard de donner naissance à une touffe feuillée. Lorsqu'une graine germe, il lui faudra au moins 6 ans pour donner des fleurs et fructifier. Plusieurs menaces pèsent sur le sabot de Vénus. L'attrait de la plante entraîne un risque de cueillette, voire de déterrage du rhizome, en toute illégalité bien entendu. L'excès de visite de certaines populations de sabots de Vénus entraîne un piétinement du sol à proximité de la plante, ce qui peut lui être préjudiciable. L'exploitation forestière par de gros engins de débardage et par l'ouverture de nouvelles pistes peut entraîner la destruction de pieds de la plante. Comme nous l'avons vu, l'épaississement du couvert forestier peut également entraîner la régression de population. Le faible taux de reproduction et les menaces qui pèsent sur le sabot de Vénus nécessitent sa surveillance. Notre association Arnica Montana suit depuis 1991 plusieurs stations de sabots de Vénus. Chaque année, nous prenons des photos des touffes fleuries. Nous faisons un plan de ces touffes et comptons le nombre de fleurs. Le taux de reproduction est également calculé. Si au cours d'une de vos randonnées, vous avez la chance de voir des sabots de Vénus, admirez-les, mais surtout, n'y touchez pas. Ils vous en seront reconnaissants en vous offrant tous les ans un superbe spectacle dans leur milieu naturel.
Merci beaucoup.
Pour le sabot de Vénus et le muguet.